Bonjour à toutes et à tous. Les Nouvelles Vagues choisissent un thème par semaine et proposent 5 entrées de réflexion pour celui-ci. Le thème est choisi en écho, plus ou moins proche, avec ce qui nous semble faire actualité. Et les entrées favorisent les nouvelles générations de chercheurs, d'artistes ou de citoyens. Cette semaine, la France dans les Nouvelles Vagues et aujourd'hui, la langue française comme porte d'entrée.
Je suis arrivé en France, ça fait presque 3 mois. Je vais étudier et puis je vais rester ici.
Qu'est-ce que vous voulez faire comme étude ?
Je vais faire le droit après, un juge.
Vous voulez être juge ?
Oui, pour juger les gens quoi.
On peut devenir ingénieur en France, on peut devenir pilote en France, on peut devenir, pourquoi pas premier ministre demain. Un grand truc comme ça. Tu peux rester ici et être ce que tu veux.
On est fiers d'être migrants, ouais, on est actifs, on est fiers. Même si on n'a pas 1 euro, on est fiers.
Alors, 5 fois la France cette semaine et pourquoi pas des révolutions poétiques, comme en appelait Juliette, 20 ans, à ce même micro il y a 2 jours, interrogée sur l'héritage de la Révolution française. Révolution poétique, résistance et mariage des contraires, dans les notes réunies après la Seconde Guerre mondiale sous le nom Feuillet d'hypnos, que René Char écrit entre 43 et 44, figure ce vers. La France a des réactions, des paves, dérangées dans sa sieste. René Char lui-même appelait à dépasser les circonstances historiques de l'écriture de ses poèmes, alors faisons résonner le texte au présent. Il est 14h passé de 2 minutes, vous écoutez France Culture, René Char qui voulait conduire le réel jusqu'à l'action. On prend le programme, bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Ces nouvelles vagues, nous pensons qu'elles ont des voix, qu'elles naissent d'êtres et de moments marquants. Alors en fin d'émission, chaque jour, nous demandons à quelqu'un de raconter l'un de ces moments-là. En novembre dernier, nous avons posé pendant 5 jours nos valises au CDI du lycée Sugère à Saint-Denis. Alors pour ponctuer cette semaine française, c'est à ces lycéens dionysiens que nous avons proposé l'exercice. Aujourd'hui, nous retrouvons Maria. Elle évoque sa prise de conscience devant le film La source des femmes de Radu Mileanu et notamment la différence entre sa position de jeune femme vivante en France et celle de sa grand-mère ayant grandi au Maroc. C'est le 4e moment d'une semaine thématique au cœur de laquelle se trouve la France. La France le pays, la France le territoire photographié, la France lieu de naissance, la France l'histoire, la France les drapeaux aux fenêtres, les drapeaux agrafés au sac à dos le 11 janvier 2015, la France les profils bleu, blanc, rouge sur Facebook à la suite des attentats du 13 novembre dernier, la France la langue. Troublés de voir en bas de chez eux, dans leur ville, des femmes et des hommes démunis, ayant fui les violences et la guerre de leur pays, jeunes et moins jeunes gens français ont cherché comment agir directement. Et certains ont spontanément proposé leur aide à monter des ateliers d'apprentissage, de rudiments de la langue française, notamment pour faciliter les démarches administratives. Il y a cela, et il y a aussi un apprentissage structuré depuis longtemps en France et à l'étranger, dispensé par des associations, des structures de formation. Cet enseignement de la langue française répond à différents besoins et se trouve à la fois être porte d'entrée vers un pays, vers un métier et ou vers soi. Anna Catan et Stéphane Boussillon, vous êtes formateurs à langue plurielle. Bonjour, bienvenue
bonjour.
À tous les deux, merci d'être là. Eleonora Cecconi, c'est comme ça qu'on dit ?
Cecconi.
Cecconi, c'est dans l'autre sens. Vous êtes formatrice au CEFIL, bonjour à vous et bienvenue. Alors avant qu'on rentre à la fois dans votre pratique et dans vos réflexions autour de cette pratique, qu'est-ce que vous pensez de notre thème de la semaine ? Qu'est-ce que ça vous inspire comme ça, la France, Anna Catan ?
Ça inspire d'abord... qu'on est très content d'être invité pour la France pour parler de ceux qui apprennent le français et ça donne toute la perspective que vous avez voulu donner à ce thème qui me va personnellement. Je trouve que c'est très beau.
Et vous, Léonore ?
Ça m'évoque déjà la thématique est donnée pour aujourd'hui, donc la langue. Vous avez parlé de la langue. Et ça me moque, c'est que je fais au quotidien en tant que formatrice et aussi en tant qu'apprenante, parce que je suis pas française, je suis italienne. Et du coup, ça m'évoque ces deux directions.
Et enfin vous ?
Un thème très inspirant. Et puis du coup, je pense qu'aussi on peut se faire la voix des apprenants pour lesquels justement, les apprenants qu'on a en cours, ça peut être aussi la voix qu'on avait, leur vision de la France.
Bon, c'est 3 points de départ.
J'avais jamais entendu auparavant cette langue. C'était pour moi une liberté qui venait de loin, qui tapait à ma porte. Donc c'était une aventure de partir loin à travers une langue étrangère. J'ai senti que c'était une très très belle langue et que je pouvais faire quelque chose de différent dans un monde ou un milieu où tout le monde fait la même chose à Gaza.
Et est-ce qu'aujourd'hui c'est une langue du passé, l'arabe, ou est-ce que c'est quand même une langue du présent ?
C'est une langue du présent parce que je suis toujours attaché à la Palestine, au monde arabe. Mais je crois que je perds de plus en plus cet attachement, car maintenant je réfléchis en français et ça m'arrive souvent de faire mes rêves en français. Ça veut dire, parfois je me dis, je suis en retard dans ma tête en français, il faut que j'appelle quelqu'un en français. Donc avant à Gaza, je ne réfléchissais pas en français.
C'est Amir Hassan qui est né en 1990 à Gaza, c'est donc un tout jeune homme né en Palestine qui est diplômé en français de l'université Al-Aqsa de Gaza. Et il est au micro de Aurélie Charron dans l'émission L'Atelier intérieur diffusée le 15 septembre 2014. Il parle de la langue française comme une langue qui a toqué à sa porte avec des valeurs venues de loin, avec des libertés possibles. Puisque vous disiez, Steven, que vous seriez peut-être cet après-midi la voix de ceux qui apprennent le français, comment vous parle-t-il de cette langue-là ?
Comment il nous en parle ? Ben justement, enfin, c'est marrant ce qu'on entend justement dans l'enregistrement, c'est-à-dire que généralement ils nous disent que c'est une langue complètement différente de la leur, mais c'est aussi une langue à laquelle ils s'identifient beaucoup, généralement. Pour la plupart, justement, ceux qui sont arrivés en France, c'est une langue qu'ils apprécient énormément. Et voilà, c'est quelque chose à laquelle ils s'identifient beaucoup.
Et sur quel principe il s'identifie à cette langue-là ? C'est un processus qu'on pourrait énoncer facilement, mais qui est pas complexe en fait.
Je pense qu'il s'identifie à cette langue parce que c'est la langue du pays où ils habitent maintenant, actuellement, où ils ont souvent un projet d'installation durable. Et c'est là en fait que nous trois, nous intervenons. Donc nos structures interviennent. Nous on fait du français pour des personnes qui vivent en France, en immersion dans cette société. Et je pense que c'est ça que Steven voulait dire, vraiment cette identification, non seulement à la langue, mais vraiment à la société, à ce qu'ils vivent au quotidien.
Le fait qu'une langue fasse directement le trait d'union avec éventuellement une histoire, des valeurs, une société, un pays, un Akatan, c'est quelque chose qui est toujours évident pour les personnes que vous rencontrez.
Alors, c'est pas forcément toujours évident, c'est toujours intéressant. Amir parlait du passé et du présent, savoir si sa langue arabe appartenait au passé, si le français appartenait au présent. C'est très prégnant. Qui ils sont ? Est-ce que ce sont des personnes d'aujourd'hui ? Est-ce qu'ils peuvent être la personne qu'ils ont toujours été, tout en parlant le français ? Est-ce qu'ils ont le droit de parler la langue de leur passé ? Et donc évidemment, c'est quelque chose qu'on leur dit de faire toujours, de garder, de nourrir cette biculturalité en étant à la fois fiers de ce qu'ils sont et fiers de ce qu'ils sont en train de devenir. Et le français, c'est la langue dans laquelle ils vont s'installer, ils vont rencontrer de nouvelles personnes, ils vont apprendre à penser autrement, en fait, avec le secours de cette langue-là, parfois avec le secours de leur propre réflexion dans une autre langue, mais peu à peu, les deux langues, les trois langues, les cinq langues parfois qu'ils parlent, vont vivre avec le français et vont construire cette personnalité polymorphe, en fait, qu'ils ont et que nous, on a la chance de rencontrer, de côtoyer tous les jours. Donc,
J'ai commencé par René Char, pas par hasard, parce que c'est un poète. On entendra tout à l'heure la voix d'une poétesse. Ce sont eux, les poètes, qui ont presque le plus dit à quel point rentrer dans une langue, c'est rentrer dans une façon de penser le monde, c'est rentrer dans un rapport au monde, dans un rapport et aussi une capacité à le dire. Comment est-ce que vous faites passer cette notion-là ? Comment vous transmettez l'idée que passer en français, c'est passer dans un autre endroit de son être ?
D'abord, c'est vrai. Mes camarades diront ce qu'ils en pensent. Moi, je suis assez persuadée de ce que vous venez de dire. En fait, déjà, on commence par essayer de déconstruire les blocages complexés en fait qu'ils peuvent avoir au regard de cette langue en disant cette langue est difficile, cette langue c'est pas ma langue, vous la parlez mieux. Et ça on essaie de le déconstruire en disant mais pas du tout. Enfin, cette langue, elle est comme une autre langue, elle a la difficulté de toutes les langues. Et vous êtes accueilli, si vous êtes accueilli en France, c'est que vous êtes accueilli dans la langue. Alors parfois, comme l'accueil et la qualité de l'accueil fait défaut, on essaye, nous, d'accueillir dans la langue, comme ils n'ont pas été accueillis dans le pays. Et puis, peu à peu, ils transforment ces difficultés d'accueil en existence dans cette langue-là. Oui, il y a un bond à faire, un trajet à faire dans une langue pour y rentrer, y pénétrer, en espérant que mieux ils seront dans la langue, c'est notre travail à nous, mieux ils seront dans leur pays, qui est la France pour ce qui nous concerne.
Tous les trois, comment est-ce que vous avez choisi ce métier-là, Éléonora?
Bah ouais, je peux commencer. Bah alors moi j'ai un parcours un peu atypique. Moi j'ai fait un Erasmus à Versailles. Et j'ai eu l'occasion d'enseigner l'italien, qui est ma langue maternelle, pendant quelques mois. Et j'avais absolument aucune notion de l'enseignement, ni de l'italien, ni d'autres langues. Et ça m'a plu énormément, même si je comprenais qu'il me manquait des notions, des compétences. Et en plus, à l'époque, du coup, c'était vraiment ma première expérience avec le français, parler tous les jours. Et j'ai eu envie de revenir en France, à Paris, de m'installer et de mieux connaître cette langue et aussi de me former à ça, à l'enseignement. Et du coup, je me suis renseignée, comme je devais quand même continuer mes études après la licence en relations internationales et droits de l'homme, j'ai choisi de poursuivre mes études dans l'enseignement du français. Du coup, j'ai fait un master 1 et 2 à Paris. Et le Master 2 avait une spécialité acquisition de compétences en lecture-écriture, d'ailleurs. Et voilà. Et après, j'ai fait des stages.
C'est très précis.
Ouais.
Déroulé de CV. Ouais. En tout cas, c'est basé sur votre appétit d'apprendre à apprendre, en fait. Si on vous écoute tout bien, c'est presque... Oui. C'est votre intérêt pour l'enseignement qui vous a dirigé vers l'enseignement de la langue française comme une langue étrangère. Oui. Et vous, Steven?
Moi, l'élément déclencheur, en fait, ça a été l'année où je suis parti en Angleterre, en fait. J'ai fait une licence d'anglais et juste après, je voulais justement améliorer mon anglais. Et je m'étais dit que c'était une bonne idée aussi de partir dans le pays justement pour améliorer la langue. Et je m'étais dit pourquoi pas justement enseigner le français dans un pays étranger. Et c'est à partir de cette expérience-là, en fait, où j'avais commencé à enseigner le français dans un collège-lycée, que m'est venue justement cette envie d'enseigner, justement d'apprendre à apprendre. Ouais. C'est à partir de là.
C'est étonnant, ces deux détours par des langues étrangères, l'italien et le français, qui vous amènent vers le français langue étrangère. Et vous, Anna?
C'est justement pas ce détour-là. Moi, j'ai d'abord eu très envie d'enseigner, mais je savais pas quoi enseigner. Et j'ai découvert le français langue étrangère et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que j'enseigne. C'est extraordinaire de pouvoir enseigner sa propre langue telle qu'on ne l'a jamais apprise, donc comme une langue étrangère. Et voilà, c'est le français langue étrangère qui m'a amenée ensuite à l'alphabétisation. Et je suis allée chez les Québécois au Canada pour apprendre à enseigner l'alphabétisation aux adultes migrants. Voilà.
Comment est-ce qu'on dit bonjour en arabe?
Sabah al-khair.
Oksana.
En Ukraine?
Oui, en ukrainien.
Dobrый день.
Dobrый день. Est-ce que c'est bien?
Oui.
Mi hao.
Mi ça veut dire que toi, di hao ça veut dire que bien. Bon.
Sri Lankais?
Are you born?
Are you born?
Madame, moi je ne peux pas écrire en wolof, madame.
Oui. Alors, mais dis-le, comment tu dis bonjour en wolof?
On dit salam alaikum.
Salam alaikum.
Non, madame.
Salam alaikum.
Mais c'est pas votre pays, c'est mon pays. Oh.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
La
des US, du R&B. La Suisse attire les comptes en banque. Les Anglais ont un humour exquis. Le Nicaragua produit la cocaïne et la revend au meilleur prix. La France, la France, des photocopies. La France, des photocopies. La mer fait pousser les poissons et le ciel fait péter la pluie. Quant à Dieu, assis sur l'horizon, il nous envoie des messies. La lune produit des cratères et le soleil a sait faire chaud. Luke Skywalker vote pour les verts. Dans l'hiver, quelle harmonie. La France, la France, des photocopies. La France, des photocopies. Les savants disent que dans quelques siècles, il y aura sur terre plus de forêts. Je vis déjà dans vos pensées inquiètes. Sans arbres, plus de papier. Mais la France, prévoyant la disette, rassurez-vous, ne perdra pas le prix. Photocopiant sur un air de fête tous les arbres du pays. Chêne, cerisier et hêtre pour faire face à la pénurie.
Le coq de Camille avec cette fausse, il me semble, chorale d'enfants, mais ce vrai titre, La France, qui faisait suite à de vrais enfants tirés du film La Cour de Babel, réalisé par Julie Bertuccelli, qui était en salle en 2013. Ces enfants qui repassaient par leur langue maternelle et pour dire à l'ensemble de la classe comment ils se disaient bonjour dans la langue qui était celle de leurs parents et du pays qu'ils avaient quitté pour arriver en France. Une classe de primo-arrivants, comme on dit, de nouveaux arrivants, de nouveaux apprenants du français, où est apprise cette langue française. Peut-être pour évoquer des différences pédagogiques, on a plutôt parlé jusqu'à maintenant d'adultes à qui vous enseignez cette langue française comme une langue étrangère. Est-ce que parfois vous avez fait affaire à des enfants?
Pas moi.
Pas vous. Et vous, Steven?
Moi, c'était juste la courte expérience en Angleterre, justement, où c'était dans un collège-lycée. Donc, c'était vraiment... Enfin, c'était pas des enfants, plutôt, c'était des adolescents. Mais sinon, avec des enfants, non, jamais.
Et vous, Anna-Catherine?
Non, j'ai jamais enseigné à des enfants.
Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, vous enseignez à des adultes, précisément. Donc, ça veut dire que ça demande une autre pédagogie, même un autre mot, qui est celui d'andragogie. Quel est ce mot-là?
Alors, l'andragogie, c'est un mot qui est très utilisé au Québec, qui pourrait tout à fait être utilisé ici, sauf que je sais pas pourquoi, quand on utilise un nouveau mot en France, on a l'air pompeux, alors qu'au Québec, c'est tout à fait normal d'utiliser un mot pour ce qu'il est, en fait. Donc, on n'ose pas trop dire qu'on fait de l'andragogie en France pour pas être pompeux. En tout cas, c'est tout simplement le fait d'enseigner à des adultes et de penser ce que l'on fait pour des adultes. Donc, voilà. Et c'est aussi pour ça que nous ne sommes pas professeurs, nous sommes formateurs, parce qu'on s'adresse à des adultes. Et donc, on va enseigner, on va prendre en considération la donnée adulte dans la façon d'enseigner.
Donc, justement, dans quelle mesure alors? C'est-à-dire, vous vous retrouvez à enseigner, mais pas dans cette disposition peut-être habituelle de l'enseignant adulte face à des enfants qui apprennent. Qu'est-ce que ça change?
Ça change, je pense que les personnes qu'on a en face de nous, c'est des personnes qui ont un vécu derrière eux. Qui ont beaucoup d'expérience qu'on connaît pas forcément, qui ont peut-être exercé plusieurs métiers ou pas, qui ont été à l'école ou pas, et qui ont vraiment des expériences que je pense il faut prendre en compte. Parce qu'en plus, ils peuvent les croiser entre eux, comme on fait souvent des cours hein, collectifs. Et voilà, du coup, je pense que c'est ça la vraie différence entre les adultes et les enfants. Les enfants sont plus ou moins vierges, je dirais. Bon, c'est un peu pompeux aussi, peut-être. Mais je pense que la différence, c'est ça.
En tout cas, ils sont moins expérimentés. Vous vous appuyez davantage sur l'expérience de ces adultes pour trouver des processus d'enseignement ou de transmission de cette langue française, Steven ?
Oui, complètement. Ouais. Enfin, généralement, je sais que, par exemple, nous, on travaille avec des salariés à langue plurielle et on se base beaucoup, justement, sur leur expérience professionnelle. Et c'est pareil, les cours, généralement, tournent autour de leur expérience professionnelle. En fait, c'est à partir de leur expérience que les cours sont construits.
Quand vous dites leur expérience, c'est y compris leurs besoins professionnels ?
Oui, leurs besoins professionnels aussi, exactement. Oui.
De quelle manière ?
Alors, en fait, la première fois qu'on travaille avec, qu'on rentre en contact avec un milieu professionnel à langue plurielle, les formateurs nous disent « Mais comment je fais ? J'y connais rien, moi, à la métallurgie ou à la maçonnerie, etc. » Ils peuvent être très étonnés. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que le stagiaire ou l'apprenant va nous fournir toute la matière de son propre apprentissage. En fait, nous, on va lui donner les outils linguistiques pour mettre en valeur, pour exprimer ce qu'il sait faire déjà, pour questionner ce qu'il sait déjà faire. C'est, pour nous, c'est une matière linguistique, mais lui, nous apporte tout le matériau avec lequel on va constituer ces cours. Donc il n'y a jamais aucune inquiétude et le premier enquêteur qui nous apporte toute la matière de nos cours, ce sont les apprenants à qui on va apporter des connaissances linguistiques. Donc c'est intéressant en ce sens. Et c'est vrai qu'on fait aussi très attention à mettre en valeur l'expérience au pays pour les apprenants migrants.
Dans leur pays d'origine.
Dans leur pays d'origine, c'est-à-dire qu'on a tendance à faire en général... commencer l'expérience professionnelle et l'expérience de quelqu'un, d'un migrant, lorsqu'il arrive en France. Mais nous, on essaie de lui dire que sa vie commence au moment où lui a décidé que ça commençait, en fait. Et donc, on va aller chercher de la matière dans le passé réel pour mettre en valeur le fait qu'on se construit dans le avant, dans le pendant, dans le après, migration, mouvement, voyage, et que c'est comme ça qu'on a un présent. Donc, effectivement, les formateurs pour adultes, mais pas que nous, en linguistique, tous les formateurs d'adultes, dans le cadre de la formation professionnelle continue notamment, s'appuie sur l'expérience, parce que l'adulte pour apprendre a aussi besoin qu'on fasse écho à sa propre expérience et de questionner là où il en est. Et c'est comme ça qu'il acquiert de nouvelles connaissances.
Notamment en évaluant, j'imagine, ses besoins et ses attentes. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils arrivaient pour certains d'entre eux avec des craintes, des représentations du français comme une montagne très difficile à gravir. Ils arrivent aussi, j'imagine, avec des désirs, avec des attentes. Comment est-ce qu'ils sont exprimés le plus souvent, ces désirs-là, Eleonora ?
C'est vrai que je pense que ce moment-là, c'est vraiment le moment de l'évaluation de la personne. Alors, nous, on s'appuie beaucoup sur les évaluations qu'on fait avant de faire commencer la formation aux personnes qu'on reçoit. Et c'est là, en fait, que, grâce à un entretien libre, la personne explique un peu son parcours et justement ses projets professionnels. Nous aussi, on est une structure qui travaille avec des personnes qui... alors, nous, on travaille pas avec des salariés, on travaille avec des personnes qui... souhaitent travailler, donc des demandeurs d'emploi. Et donc, bien sûr, ils ont des désirs, des souhaits. Et on en parle, voilà, en évaluation. Et aussi au moment du premier cours, peut-être, quand on commence à se connaître et que chacun se présente.
Ce sont des besoins qui sont exprimés comment ? Pour des besoins administratifs, de communication avec les collègues, avec les employeurs ? Sur quel terrain principalement ?
Moi, j'ai l'impression comme ça que ils arrivent souvent avec d'énormes besoins, en ayant la sensation qu'ils ne savent rien. Ils disent souvent « je ne sais pas parler, je voudrais apprendre à parler, je voudrais apprendre à écrire et à lire ». C'est énorme en fait. Et le besoin n'est pas spécifié, c'est pas apprendre à dire quelque chose à quelqu'un, faire les transmissions à mes responsables, etc. C'est juste parler, je voudrais apprendre à parler, comme s'ils ne savaient pas du tout. Donc nous, on accueille ces citations, en fait, la façon dont ils le disent, parce que c'est très important. Mais après, le premier travail qu'on fait, c'est défricher et dire, mais vous savez déjà faire tout ça. Vous parlez avec vos collègues, qu'est-ce que vous racontez, qu'est-ce que vous faites, vous parlez avec vos responsables, vous écrivez ceci, vous lisez ça. Donc on va commencer par mettre en valeur ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ignoraient savoir-faire. Et ensuite, on va construire ce qui manque. On va venir combler les lacunes quand elles rendent leur vie difficile, en fait. Beaucoup disent, moi, j'en ai marre d'avoir cet accent-là. Vous voulez pas me corriger mon accent ? Je dis, mais non, mais il y a aucune raison de corriger votre accent. Il est exceptionnel. Ça enrichit notre langue que d'avoir des locuteurs qui parlent avec un accent. On va corriger les points de votre accent qui rendent difficile la compréhension par les autres. Oui, ça, on va le faire. Mais si ça rend pas du tout compliqué, si vous êtes compris quand vous parlez, c'est beau, tant mieux, gardons-le. Donc là, je vous parle de l'accent particulier, mais on va faire la même chose pour d'autres matières qu'on enseigne aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas que la lecture et l'écriture à un public migrant. En France, on enseigne aussi parfois le calcul, le repérage dans le temps, dans l'espace, l'informatique et tout ça. Et donc, dans toutes ces matières-là, on fait comme ça, on met en valeur les savoirs déjà présents et on comble les lacunes de sorte qu'ils puissent être heureux, en fait, et autonomes dans leur vie en France.
D'un point de vue de la méthode, quand vous dites on met en valeur, ça passe par quoi ? Par des moments de parole, d'échange ? C'est beaucoup nourri par ça, Steven ?
Ouais, bah il y a beaucoup justement d'échanges, mais c'est ça qui est intéressant et qui est enrichissant aussi, c'est qu'il y a pas, c'est pas juste une relation formateur apprenant, ça va pas que dans ce sens-là, en fait, ça va dans les deux sens, comme disait Anna tout à l'heure, c'est-à-dire que on va leur enseigner des choses, mais eux aussi, en fait, vont nous enseigner des choses. C'est-à-dire qu'on va partir de leur expérience. Donc nous, on n'est pas spécialisés, en fait, dans leur domaine, forcément. Par exemple, si on va donner des cours, je sais pas moi, des ouvriers du BTP, on n'est pas spécialisés dans ce domaine-là. Et eux vont nous apporter, justement, toutes ces clés-là. Donc il y a une espèce d'échange, en fait, de double objectif. Et c'est ça qui est très enrichissant, justement.
On parle d'adultes, on n'a pas spécifié s'il s'agissait le plus souvent d'hommes ou de femmes. Et si ça changeait quelque chose dans le rapport à l'apprentissage de la langue, Anna Caton.
Alors, on a des hommes et des femmes. Alors, pratiquement autant d'hommes que de femmes. Ce qui fait la différence, en tout cas dans les deux organismes dans lesquels on travaille, ce seront les secteurs d'activité. C'est-à-dire que, parce qu'il se trouve que le CEFIL comme langue plurielle travaille en français compétences professionnelles ou français langue professionnelle, c'est-à-dire qu'on prépare à une orientation professionnelle. Donc, on oriente aussi le lexique que l'on travaille, toutes les choses à savoir dire, à savoir faire en français sur des domaines particuliers. Et lorsqu'on se dédie par exemple au service à la personne, là on a plus de femmes. Lorsqu'on se dédie au BTP, on a plus d'hommes. Et là on a aussi des actions autour de l'hôtellerie-restauration, on a des hommes et des femmes avec une majorité d'hommes. Donc ça, c'est plus l'orientation, le projet professionnel qui va déterminer l'égalité ou non entre les hommes et les femmes, plus que le fait d'apprendre le français.
On parle beaucoup pour les enfants d'une différence de rapport à l'apprentissage. Alors là, pas du tout dans le français langue étrangère, mais dans tous les apprentissages des garçons et des petites filles, dans la manière dont ils se lancent dans le risque d'apprendre, dans la joie d'apprendre, dans la possibilité d'apprendre. Est-ce que vous remarquez, vous, dans vos publics, que les femmes, donc dans ces métiers-là, ou les hommes, se lancent différemment dans cette aventure ? Éléonora ?
Je sais pas. Non, j'ai pas cette impression.
Pas de différence dans ce que vous observez.
Non, j'ai pas cette impression.
Et vous, Steven ?
Non, c'est pareil, je rejoins Léonora. Moi, je vois pas énormément de différence entre les deux, non.
Je pense, si je peux rajouter quelque chose, ça dépend vraiment de la motivation de cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Ça dépend du degré de motivation, de son projet, justement, qui peut être pareil si on est homme ou femme.
Alors en formation d'adulte, on a tendance à distinguer trois profils d'apprenants, ça dépasse la linguistique, ce sont les apprenants visuels, les apprenants plutôt mémoriels et ceux qui apprennent en faisant. Donc on constate que dans nos apprenants, il y en a qui ont besoin pour apprendre d'écrire les mots absolument, de réviser, de faire les choses de façon assez scolaire. Ceux qui ont besoin de voir les choses, de les voir écrites au tableau, de voir des images, de compléter leur savoir comme ça. Et puis ceux qui ont besoin de faire, de faire des jeux de rôle pour apprendre, etc. Et ça, on le constate. Mais effectivement, on a jamais, alors peut-être que c'est parce que on regarde vraiment tous les apprenants qu'on a en face de nous de façon égalitaire, donc on ne fait pas tellement de différence homme-femme, mais peut-être que les personnes qui enquêteraient sur nos publics verraient une différence homme-femme, nous on l'a pas encore vu, mais la vraie différence c'est la façon d'apprendre, en fait, entre certaines personnes.
Justement, vous parlez de cette façon d'apprendre et donc de différentes méthodes pour transmettre cette langue. Il y a des méthodes qui touchent à la dramaturgie, je pense par exemple à ce que propose Glottodrama, où sont des mises en situation qui touchent davantage au théâtre, où les apprenants se lancent dans des mises en scène pour utiliser la langue de cette manière-là. Est-ce que vous pouvez développer ?
Alors en fait, le français langue étrangère en tant que discipline est très très riche en activités, très très riche déjà. Mais il se trouve que l'alphabétisation l'est un petit peu moins. Et puis ce que l'on fait en français, langue d'intégration, français langue professionnelle et tout ça, peut l'être un petit peu moins. Donc c'est vrai qu'on essaye d'innover et on utilise les arts parce qu'on les adore, enfin les arts au sens large parce qu'on les adore individuellement. Donc on a souhaité innover à langue plurielle sur glottodrama, une méthode qui a été expérimentée, enfin qui est née en Italie puis qui a été expérimentée à l'échelle européenne. On essaie de créer un binôme en cours, un comédien et un enseignant en français, de sorte de proposer, de faire une proposition pédagogique dynamisante, notamment pour les apprenants que l'on a, qui sont très timides, qui ont un savoir fou sur le français et qui ont la sensation de ne rien savoir. Alors on essaye par le théâtre de débloquer leur aptitude à parler, à communiquer, et pas seulement verbalement, mais aussi de prendre conscience que quand on communique avec les mains, les yeux, le corps, tout ça, et de faire en sorte qu'ils engagent tout ça et qu'ils affrontent avec plus de simplicité la vie qu'ils ont en France en se disant mais j'y arrive en théâtre ou finalement je me débloque. Et c'est vrai qu'on utilise cette méthodologie-là, pas tout le temps, parce que ça nécessite donc la présence de deux formateurs, ce qui est rarement possible dans les structures comme les nôtres, et puis même encore plus dans les associations où ce sont des bénévoles qui enseignent l'alphabétisation ou d'autres matières. Mais oui.
Après, c'est vrai que cette méthode de mise en scène d'une situation est très courante dans le FLE.
Français langue étrangère.
Bien sûr, français langue étrangère. Donc ça, c'est un projet spécifique, c'est un beau projet. Mais en général, à un FLE, on fait beaucoup de mises en situation, on essaie de jouer des scénettes dans des contextes précis. Donc c'est ça aussi, je pense, une différence avec la pédagogie aux enfants. Avec les adultes, on les met vraiment en situation, des situations qu'ils peuvent vivre au quotidien, aujourd'hui, demain ou hier, qu'ils ont vécu hier.
J'étais écartelée entre deux langues, l'arabe et le français, pendant 10 ans, vivant en France, écrivant le français. Mes brouillons étaient écrits dans les deux langues. Je m'arrêtais, le stylo en l'air, le mot français ne venait pas. Je l'écrivais en arabe, ce qui fait que mes brouillons étaient écrits de droite à gauche en arabe et de gauche à droite en français. Et petit à petit, la langue arabe a été remplacée par la langue française. Les mots arabes se sont raréfiés. Et un jour, j'ai dit, tiens, je dois prendre le deuil de ma langue maternelle.
Autre poétesse, Vénus Kourigata, une poétesse d'origine libanaise. Elle est au micro d'Olivier Germain-Thomas dans l'émission Fort intérieur, diffusée en 2001, puis rediffusée dans l'émission d'Aurélie Charron en septembre 2014. Elle parle d'un écartèlement entre deux langues et d'un deuil à faire d'une première langue pour entrer dans une deuxième langue. C'est une poétesse qui parle. Est-ce que cet écartèlement entre les deux langues, vous l'observez dans les personnes qui apprennent le français avec vous les uns les autres ?
Non. Oui, on l'observe et je trouve que c'est tellement triste ce qu'elle dit. En même temps, c'est important aussi. Et je trouve que c'est intéressant parce que je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour éviter cet écartèlement au maximum. Et là, je rejoins aussi le thème que vous avez choisi pour cette semaine. Je crois qu'il faut absolument qu'on œuvre tous vers la fin de ces écartèlements culturels ou linguistiques chez les personnes qui ont la chance de porter en eux 2, 3, 4 cultures. Voilà, c'est vraiment extrêmement triste et j'espère qu'on y arrive un peu en faisant ce que l'on fait. En tout cas, ça me donne encore plus envie de continuer à le faire.
Parce que quand on parle d'écartèlement, quand on parle de deuil, ça veut dire qu'à un moment donné, cette femme ou d'autres femmes, hein, ou même des personnes qu'on a pu recevoir à ce micro-là, décident qu'une langue va être morte en eux. Mais je me souviens d'une femme notamment qui racontait que cette langue morte, elle continuait à lui faire mal en fait. Et qu'elle était morte, d'accord, mais elle était toujours souffrante. Ce sont des choses qui réussissent à être dites dans les ateliers de formation en langue française étrangère ?
Oui, enfin, souvent, ce sont des choses qui sont exprimées et qui sont exprimées parfois par des attitudes. Ah, excusez-moi, je l'ai dit en arabe ou ah, ce mot, je suis désolée, j'arrive pas à le trouver en français. Et donc, tant mieux. En fait, c'est normal. Il y a des réalités qui existent dans des langues et pas dans toutes ces langues. Et donc, il s'agit aussi de rétablir l'équilibre et l'égalité entre les langues. Et souvent, les apprenants que l'on a en cours sont des apprenants qui sont dans une situation qu'on appelle une situation de diglossie, c'est-à-dire qu'il y a un jugement de valeur entre les deux ou trois langues qu'ils parlent, et ils ont la sensation que parler le français, c'est mieux que parler l'arabe, ou parler le soninké, ou parler le bambara, parce que le français est une langue plus importante. Et non, il n'y a aucune langue plus importante. Elle est importante parce qu'ils vivent ici, qu'ils ont besoin de la parler. Effectivement, elle est importante en ça, mais elle n'est pas plus importante que la langue, que leur langue à eux. Et en aucun cas, il faut l'éteindre, la faire mourir en soi. Il faut la faire vivre. Et lorsqu'elle parle, cette poétesse, de ces deux feuilles, de ces deux brouillons, un qui commence à droite, l'autre qui commence à gauche, il faudrait qu'elle soit fière et qu'elle se dise, dans toutes ces feuilles-là qui commencent à droite, à gauche, j'ai ma pensée. Ma pensée, elle est là-dedans. Elle n'est pas dans l'un ou l'autre, et il faudrait que j'en éteigne un et fasse vivre l'autre. Donc j'espère qu'on construit ça.
Dans des cas de diglossie, qui sont des cas souffrants, l'apprentissage de la langue française, c'est un moyen de revaloriser des langues qui étaient parlées au pays, des langues qui sont parlées éventuellement à la maison, dans la famille. C'est quelque chose qu'on vous dit, par exemple ?
Moi, ça m'étonne à chaque fois quand on demande aux personnes les langues ou la langue qu'ils parlent, la langue maternelle. Et en fait, souvent, ils savent pas répondre. Ils disent un peu le français, parce qu'ils sont dans une situation où il faut dire ça. Et du coup, ils pensent pas, par exemple, aux deux ou trois langues ou plus qu'ils parlent. Et du coup, je trouve que ça, c'est étonnant, parce que si quelqu'un me demande quelle langue je parle, moi, je pense tout de suite à
l'italien
ou à l'anglais, un peu.
Hello, you want charge now?
Yeah, I want charge.
At what time you come?
6.
Non, 60. D'abord, 60. Je t'ai déjà dit pas 60.
Sorry.
60. Ça, 60. Faites-leur dire. Non, 60.
60.
How many you have?
3.
3 mobile, 3 charge?
Yes.
Oh.
What's your name?
My name is Johannes. Or John.
John?
Yeah.
Johannes.
Yeah.
Johannes.
Yeah.
How old are you?
15, that means 15.
Vous avez 15 ans?
Yeah.
15. And you are alone in France? Vous êtes seul en France?
France, 2 months.
You are with your family?
No, there is no family.
You have no more family?
No, I have no family here.
Écoute-moi, oh camarade. Laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais mis camarade. Elle profite de toi et tu es content. Même ses paroles sont froides, tu dois les sentir pour autant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face, elle changera un chaque instant.
Écoute-moi, camarade, interprété par Mohamed Mazouni, ce chanteur algérien qui chantait en France et en français, notamment pour ses compatriotes immigrés en France. Cette chanson, Écoute-moi, camarade, qui a été reprise évidemment plusieurs fois, notamment par Achitaha, beaucoup plus tard. Juste avant, on entendait Sur la route, une émission de Julie Gacon, et la voix à la fois d'un jeune homme à Calais venant brancher et recharger son portable, et à la fois d'une dame un peu plus âgée qui s'appelle Brigitte et qui leur offre à la fois un peu de chaleur et d'électricité pour recharger leur portable, échanger dans un franglais, mélange d'anglais, de français, et puis j'imagine d'autres langues dans cette maison. Peut-être pour évoquer ce moment un petit peu particulier qui a vu à l'hiver et au printemps et à l'été dernier se multiplier des camps de fortune, des tentes, des abris, des endroits de très grande précarité à Paris, à Calais et ailleurs, abritant des personnes en situation de mouvement, de migration vers l'Angleterre ou ailleurs, et qui a vu spontanément se proposer quelques personnes pour enseigner des rudiments de français, souvent dans l'impuissance qui était la nôtre ou la leur. C'est peut-être des réflexes qui venaient juste après l'eau ou des dattes ou des oranges. Est-ce que d'une part vous avez été spécialement mobilisée à ce moment-là et comment regardez-vous cela, Anna?
Moi, je regarde ça d'un œil pas forcément émerveillé parce que c'est trop naïf, mais je pense que c'est incroyable le nombre de personnes qui enseignent le français aujourd'hui par nécessité, parce qu'ils rencontrent quelqu'un et qu'ils ne peuvent pas faire autrement que le faire. Et la majorité des cours de langue, même aujourd'hui en France, est donnée par des bénévoles qui ont leur envie, leur motivation, et qui ont un sentiment d'indignité totale, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas devant cette situation-là, en se disant que c'est pas possible de vivre ici sans pouvoir parler cette langue-là. Donc oui, c'est d'abord, c'est tout à fait normal, il me semble tout à fait normal de réagir comme ça. Il se trouve que individuellement, je réagis aussi comme ça. Moi, j'ai la chance de faire le métier qui me permet de réagir, mais c'est pas le cas de tout le monde, et je crois qu'on est un nombre très très important en France, à Calais aussi aujourd'hui, mais dans tout un tas de villes dans lesquelles il n'y a pas assez de cours de langue structurés, pas assez de formateurs formés pour le faire. Il y a des gens qui, chez eux, accueillent des personnes pour, évidemment, pour créer du lien social, pour leur donner des cours, et font avec ce qu'ils peuvent, parfois les livres qu'ils ont chez eux, les livres d'art, les dictionnaires, les livres de leurs enfants. Ils sont ces premiers réflexes qui, même si une fois qu'on commence à travailler l'andragogie en alphabétisation, sont des réflexes à ne pas garder, à ne pas conserver, puisque c'est pas vraiment comme ça qu'on enseigne de façon professionnelle, mais peu importe, l'important c'est d'avoir cette envie de partager la connaissance de la langue.
Vous dites que vous, à titre individuel, c'est comme ça aussi que vous avez réagi, mais que vous aviez des outils professionnels pour le faire. Pour autant, est-ce que vous avez pu exercer votre métier, entre guillemets, dans les mêmes conditions, dans l'urgence, dans les différents endroits où vous avez pu intervenir?
Alors, nous, il se trouve que à Langue Plurielle comme au Céphile, on ne travaille pas dans l'accueil des primo-arrivants directement, à part dans le cadre de projets qu'on mène, notamment un projet qu'on mène avec TV5 Monde en ce moment. Mais je pense que ce sont vraiment les associations qui sont aux premières loges de l'accueil des primo-arrivants qui ont dû faire face à des situations vraiment très difficiles. Nous, on l'a vu de façon indirecte parce qu'on a reçu énormément de gens qui venaient chez nous pour des cours de français avec des problématiques très particulières, qui étaient prêts à payer pour ça, et on ne pouvait pas les accueillir parce qu'il se trouve que par ailleurs, on s'occupe des migrants qui sont là depuis des années, qui travaillent, qui sont demandeurs d'emploi. Donc, mais heureusement, on se trouve qu'on travaille dans le 18e arrondissement de Paris. Il y a tous les centres qu'il faut pour pouvoir accueillir tout le monde. Vraiment, moi, je tire mon chapeau à toutes les associations qui sont dans les foyers d'accueil des demandeurs d'asile, qui ont énormément œuvré, aux associations spontanées qui se sont faites, aux gens qui ont accueilli des cours, même en mini-groupe chez eux, dans leur propre salon. Tout ça est très favorable à la création d'un lien social qui est ensuite très difficile à construire. Donc, heureusement que ça s'est fait. Il se trouve que nous, voilà, on n'a pas pu le mettre en œuvre pour l'instant.
Vous dites que ce sont des réflexes parfois dans l'enseignement, vraiment si on est du point de vue de l'andragogie ou de la pédagogie, qu'il faut oublier lorsqu'on enseigne professionnellement le français langue étrangère. C'est aussi un autre volet finalement de la transmission de la langue française en tant que langue étrangère, c'est la formation des futurs formateurs. Comment ça se passe? Comment on apprend à apprendre le français comme une langue étrangère? Peut-être on peut vous entendre vous, puisque vous êtes d'origine étrangère, Eleonora.
Je pense que oui, je pense qu'il faut être formé. Et comment on l'apprend? On l'apprend si on va à la fac. Il y a des masters pour ça.
Non, bien sûr, je veux dire, mais concrètement, comment est-ce qu'on vous transmet la langue française comme une langue étrangère?
D'accord.
Vous demandez de l'aide à vos amis. Vous pouvez.
C'est pas facile comme.
Steven, ouais, moi, je dirais aussi que, c'est un apprentissage qui se fait sur le tas, en fait. C'est-à-dire que, on commence généralement sans forcément avoir d'expérience, et en fait, c'est en justement après quelques cours justement qu'on voit comment ça marche, et ça peut être un apprentissage sur le tas. Alors après, par contre, il y a aussi des formations qui sont justement dédiées à cela, mais il y a beaucoup d'apprentissage sur le tas, je pense aussi.
Nous, on a été formés donc à l'université, et il se trouve que l'histoire des méthodologies d'enseignement du français langue étrangère, elle remonte aux années 70 finalement, et depuis, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, on enseigne le français dans une démarche qu'on appelle une démarche actionnelle, c'est-à-dire qu'on apprend, on enseigne une façon d'agir avec la langue. C'est-à-dire la langue n'est pas utilitaire, mais elle sert à dire et à faire des choses en français. Donc on a été formés de sorte de pouvoir mettre les gens directement en situation d'utilisation de cette langue. Donc on ne fait pas de grammaire pure, on ne fait pas de conjugaison pure, on ne fait pas de vocabulaire pur. C'est toujours contextualisé, relatif à une situation, à une chose qu'ils devront savoir faire. Voilà, pour aller même faire ses achats. Il faut être en mesure de savoir ce que l'on veut, de reconnaître le vocabulaire, de comprendre la liste qu'on nous a donnée, de peut-être la lire, de se repérer dans un magasin, de compter l'argent, de savoir comment quelles questions on pose. Donc il y a tout un tas de savoir-faire comme ça qu'on met et que l'on enseigne nous. Et c'est à travers ces choses-là que les apprenants vont acquérir du vocabulaire, de la grammaire, etc. Je pense que le français langue étrangère, en tout cas dans la méthodologie du français langue étrangère, aurait plein de choses à dire et
au français langue
maternelle. Ah, non, oui. Voilà, c'est-à-dire que vraiment il y a des conversations qu'on rêverait d'avoir avec les académies du ministère de l'Éducation nationale notamment, parce que justement aujourd'hui on est dans une France pluriculturelle et plurilingue et qu'on n'enseigne pas le français à des personnes qui sont monolingues et des personnes qui sont bilingues. Et nous on a tout un tas de techniques qui sont très efficaces quand même. Enfin, on réussit à enseigner le français.
Et qui mériterait de migrer vers l'éducation nationale.
Ah oui, qui mériterait de migrer vers l'éducation nationale. Enfin, on adorerait pouvoir au moins en discuter et faire des choses avec ça. Mais voilà, la méthode.
Et alors ça, c'est un dialogue qui est possible. C'est-à-dire que, puisque vous, en plus, donc, vous avez appris, vous êtes né dans la langue française, donc vous avez dû réapprendre cette langue comme une langue étrangère. C'est un dialogue que vous avez parfois avec des enseignants de français langue maternelle?
Ah bah, tout le temps. Enfin, chaque fois que je croise des instituteurs, je les... Oui, très souvent.
Et alors, sur quel point, sur quel thème, par exemple?
Alors, il y a un point particulier, par exemple, qui est l'enseignement de la conjugaison. Non, voilà. Bon, mais c'est vrai, le français langue maternelle enseigne la conjugaison de sorte qu'on retienne que c'est compliqué, en fait, et qu'il n'y a que des exceptions. Le troisième groupe de la conjugaison française est horrible. Et en français langue étrangère, on enseigne aujourd'hui, bon, grâce à des linguistes, mais je ne veux même pas vous dire qu'ils ont écrit des choses en 2012, de 1978, qui proposent juste de classer les verbes autrement. Et au lieu de créer de la confusion, de l'exception, on crée de la règle, de l'universel. Quelque chose qui est vrai tout le temps. Donc pour nos apprenants, nous, on ne peut pas se permettre de leur dire, alors dans le troisième groupe, vous mettez n'importe quoi. En fait, c'est tout ce qui est pas normal. Et dans le premier groupe, vous verrez. Alors, c'est censé être des verbes réguliers, mais en fait, ils ne sont pas réguliers parce qu'il y en a qui changent d'orthographe, etc. On peut pas se permettre, les pauvres. Donc, nous, on essaie de trouver des choses qui structurent. Et en français, langue étrangère, on a tout un tas de ressources que nous n'avons même pas créées, qui sont extraordinaires, qui sont écrites depuis des années. Moi, je suis prête à donner les coordonnées de tout le monde. Et c'est vrai que je rêve de pouvoir en parler. pour qu'on enseigne même la conjugaison, la grammaire, le lexique de façon dynamique, intelligente et qui serait beaucoup plus agréable en plus à enseigner pour les instituteurs qui se mettent en quatre et qui font un boulot extraordinaire, mais voilà, qui s'arrachent les cheveux avec les exceptions.
Alors quand on dit de manière très démagogique que les étrangers ou les étrangers parlant la langue française enrichissent la langue française, là on pourrait le dire de manière très concrète et très pragmatique.
Ah oui, là c'est pas démagogique, je veux dire, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité.
On a juste entendu, pour conclure cette chanson, Écoute-moi camarade, chantée en français par Mohamed Mazouni. Est-ce que la musique est utilisée parmi les autres arts que vous utilisez en atelier? Je vous vois sourire, Eleonora.
Bah oui, parce qu'elle est utilisée, carrément. On utilise beaucoup des chansons, parce qu'on peut bosser à la fois sur le vocabulaire de la chanson, sur le message de la chanson. Et du coup, oui, carrément. C'est un des supports qu'on utilise, comme on utilise la vidéo, comme on utilise des enregistrements.
Vous aussi, Steven?
Bah, j'en ai utilisé une hier encore.
Laquelle?
Une chanson de trio, El Dulce de Leche.
Ouais,
exactement, qui parle justement d'un migrant chilien justement qui est arrivé en France. Et justement, cette problématique qu'il y a de justement ne pas pouvoir retourner dans son pays. Et justement, le manque qu'il peut y avoir par rapport à cette arrivée et ce non-retour, justement.
Ça a fait écho auprès des personnes qui étaient apprenantes autour de vous?
Exactement.
Exactement.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
14h50 sur France Culture, à cette heure-ci, chaque jour, nos discussions se suspendent et on enregistre des récits d'émotions, des récits de moments marquants. Ce n'est pas la chose la plus facile à partager. D'ailleurs, j'imagine que probablement en cours de français langue étrangère, ce n'est pas facile non plus à partager ces émotions, mais peut-être encore moins lorsqu'on a à peine 18 ans et qu'on est lycéen. C'est pourtant l'exercice qu'on a proposé aux lycéens du lycée Sugère de Saint-Denis, avec qui on avait fait de la radio en novembre dernier. On les a re-rencontrés, cette fois-ci à Radio France. C'était en décembre. Et aujourd'hui, on écoute Maria. Elle parle de sa prise de conscience, de sa condition de jeune femme, devant un film de Radu Mihaleanu. C'est une prise de conscience très optimiste.
C'est un film, si mes souvenirs sont bons, il se déroule au Maroc. Et c'est donc les femmes qui vont chercher de l'eau, tôt le matin. Et il s'avère que ces femmes-là, il leur arrive plusieurs misères sur le chemin, donc pour aller chercher cette eau très importante. Et on a les hommes qui sont toute la journée au café, en train de fumer, jouer aux cartes devant leur café. Et donc, dans ces misères-là, il y a des femmes qui perdent leur enfant parce qu'elles tombent. Il y a des dos qui sont limite cassés. Enfin, les femmes, arrivant à un certain âge, elles marchent couchées, on va dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, voilà. Et au final, les femmes, elles décident de faire la grève de l'amour. Donc, les hommes, là, bah, ils sont pas contents. Puis les femmes, elles tiennent. Donc Leila Berti, elle est à la tête de cette grève. Et elle pousse les femmes, faites cette grève-là. Il n'y a que avec ça qu'on tient les hommes. Et voilà, c'est l'histoire. Et au final, on réussit à avoir de l'eau. Les hommes se bougent enfin. Donc moi, je suis originaire du Maroc et je parle beaucoup avec ma grand-mère. Et quand je parlais avec elle, elle me décrivait un peu la femme d'avant. Et j'y croyais pas trop. Je me disais, mais c'est pas possible. Moi, j'ai tout ce que je veux. J'ai le robinet, c'est la pièce d'à côté, j'ai de l'eau. Et là, elle me disait, mais non, Maria, je te promets, nous, on devait aller chercher de l'eau, on devait travailler enceinte, on avait beaucoup de choses à faire. Et en fait, j'ai direct fait le lien avec ma vie d'aujourd'hui, la vie de la femme. Enfin, je suis une jeune fille, j'ai seulement 17 ans, mais bon, c'est vraiment l'opposé. Et je suis en admiration devant ces femmes-là. Et le message qui est direct venu dans ma tête, c'est, mais pourquoi tu te plains? Parce qu'on se plaint souvent, les ados et même les mamans. Et quand j'ai vu ce film-là, ça m'a mis une claque, en fait. Je me suis bien réveillée, je me suis dit, oh, les femmes avant, elles souffraient, elles travaillaient tout le temps, les hommes, ils se bougeaient pas, et aujourd'hui, la femme, elle fait un peu ce qu'elle veut, on se casse un ongle, on pleure, alors que voilà, avant c'était compliqué. Maintenant, c'est facile et on se plaint quand même. On peut se plaindre, on est d'accord, tout le monde a le droit de se plaindre, mais quand on regarde les situations autour de nous, ça donne plus envie, en fait. Je pense qu'il faut toujours être positive et optimiste, enfin de moins se plaindre.
Cette conscience d'appartenir, peut-être cette conscience de domination sexuelle, de domination masculine, c'est une conscience que tu as toujours eue? Parce que tu sembles tenir et être très à propos de ces questions-là.
J'ai toujours vu la vie comme ça, en fait. En fait, je m'intéresse beaucoup à ce qui s'est passé dans le passé, surtout au niveau des femmes orientales, on va dire. Et j'ai souvent entendu et lu des histoires comme ça. Et de là, j'en viens à dire que la femme aujourd'hui, elle va à l'école, elle travaille, elle a ses revenus elle-même, ce qui n'était pas le cas aussi. Donc l'homme, il peut plus jouer d'elle. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma mère, elle me donne toujours le conseil, continue l'école parce que l'homme, c'est gentil, c'est mignon. Mais bon, quand il a le dessus sur toi, bah, c'est très problématique, on va dire. Walking down this road for about 35 years now, and I can tell you it's been one hell of a ride. And I've been carrying my father's words that he said to me, learn to be wise, walk with integrity and be honest. And I can hear my grandma say, child, got nothing to give to you, but may God be with you in that distant land. Yeah. I am an African girl. Well, I know where I'm coming from, and I know who I wanna be. I am trying to define everything they said of us, we who have chocolate skin. In the back of my mind, all I can hear, oh, 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 are the voices of those who are here, those who've already gone. And I can hear them whispering, oh, 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 oh. What do we do when you go to their land? Please represent us well. And I can hear my grandma say, child, I've got nothing to give to you, but may God be with you in that distant land. I am an African girl. Well, I know where I'm coming from, and I know who I wanna be.
Anna Catan, c'est vous qui avez choisi ce titre pour terminer l'émission, donc je vous laisse, comme une femme de radio, désannoncer le titre et l'interprète.
Donc
parce que j'ai plus de voix, il faut bien que je délègue.
J'ai un accent anglais particulier, donc c'est African Girl de Naomi Washira.
Alors pourquoi avoir choisi ce titre-là ?
C'est une chanteuse de talent américaine extraordinaire qui est venue il y a quelques temps se produire à Paris. J'ai découverte grâce à une amie qui fait des claquettes, qui chante, etc. Et c'est une femme qui a une raison de chanter chacun des mots qu'elle chante. Et je trouve très beau ce portrait qu'elle fait de la femme africaine qu'elle est, toute américaine qu'elle est. Elle promeut la biculturalité de façon tellement naturelle et tellement belle que je trouvais que c'était beau de l'écouter aujourd'hui.
Et d'ailleurs, on termine sur un passage qui n'est pas chanté en anglais. Anna Catan, merci beaucoup. Steven Buisson, merci beaucoup. On mettra le lien vers le site internet languepluriel.fr. Et merci à vous, Eleonora Cecconi. C'est comme ça qu'on dit. On mettra le lien vers l'Institut Cefil. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.
Merci. Merci.
Merci.
Et c'est la fin des nouvelles vagues. Pour écouter cette vague ou les vagues d'avant, vous pouvez vous rendre sur franceculture.fr. Vous pourrez vous abonner au podcast pour n'en louper aucune sur ce site franceculture.fr. À la page des nouvelles vagues, on mettra un lien vers le projet TV5 Monde qui propose tout ce travail autour de français langue étrangère. Vous pouvez nous écrire aussi sur franceculture.fr ou via Twitter et Facebook. Merci pour vos messages. Merci aussi à Romain Debec de Lièvre, Alice Ramon et Inès Duperron qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Somanina, bientôt faite par eux tous, car je ne pourrai pas parler. Je pense que demain, c'est eux qui vont la faire. Aux manettes aujourd'hui, Bruno Gagnère-Fontani, avec au droit d'auteur, Thomas. Bisous!